6h47 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster. Bonjour.
Bonjour.
Et donc vous allez nous parler de l'Argentine aujourd'hui.
Oui, nous sommes en compagnie de Carlos Kenan, économiste à l'Université Paris 3 et vice-président de l'Institut des Amériques. Bonjour.
Bonjour.
L'Argentine, donc, qui fait face à une crise économique majeure depuis le mois d'avril dernier, de quoi rappeler le très mauvais souvenir de la crise du début des années 2000 qui avait mis le pays à genoux. Les chiffres sont alarmants. Le peso argentin a perdu la moitié de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de cette année. On annonce une inflation de plus de 30% et une récession de 2,6%, avec donc les conséquences sociales que l'on devine. Plus de 27% de la population était déjà sous le seuil de pauvreté dans ce pays au premier semestre, tant et si bien que le pays appelle à l'aide aujourd'hui le FMI, ce Fonds monétaire international dont le rôle dans la crise de 2001 avait été très critiqué et dont Buenos Aires s'était distancié depuis 2006. Eh bien, ce FMI vient de valider un prêt de plus de 56 milliards de dollars à l'Argentine. Ça a été confirmé en fin de semaine dernière. D'où cette question, est-ce un retour à la case départ pour l'économie argentine quasiment deux décennies après la crise de 2001 ? Carlos Kenan, à quoi faut-il attribuer cette nouvelle crise argentine ? On parle beaucoup de la politique monétaire américaine. Ce serait le relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis qui aurait fragilisé les pays émergents, dont l'Argentine. Est-ce que c'est ça qui a créé ce vent de panique ?
Disons que c'est une partie des causes. Il y a plusieurs causes. Et en effet, disons, l'entrée dans un nouveau cycle monétaire et financier international fait partie des causes, c'est-à-dire l'entrée dans une phase de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, d'appréciation du dollar et donc de redirectionnement des flux financiers internationaux qui allaient jusqu'à il y a quelques mois vers les pays émergents et qui maintenant s'adressent justement, vont vers les États-Unis. Donc ça, c'est un premier élément qui explique pourquoi le peso argentin s'est affaibli, l'économie argentine a été affectée, des même que la Turquie et d'autres pays émergents. Mais il y a aussi des facteurs proprement spécifiques à l'Argentine, tout particulièrement, disons, l'Argentine, comme la Turquie d'ailleurs, et au cours de ces derniers temps, a généré une source de fragilité qui fait partie aussi des problèmes structurels de l'économie argentine, c'est-à-dire un déficit extérieur, un déficit du compte courant de la balance des paiements, et qui est allé au-delà de 5% du PIB. Donc ça, évidemment, implique une forte dépendance à l'égard des financements extérieurs, et notamment des financement de court terme qui venait et justement profiter de l'Argentine, du différentiel des taux d'intérêt entre l'Argentine et le reste du monde. Donc là, il y a une source de fragilité locale, interne. Et je disais que ça fait partie des caractéristiques structurelles de l'Argentine parce que l'Argentine a justement depuis longtemps un problème. C'est que l'économie ne génère pas la quantité suffisante de dollars dont elle a besoin pour fonctionner et ça implique justement un besoin d'ajustement extérieur assez finalement fréquent.
Mais ce qui surprend aujourd'hui Carlos Kenan en Argentine, c'est la rupture avec une certaine euphorie qui avait été affichée par les dirigeants argentins. Mauricio Macri, donc, qui avait été élu en 2015, avait soldé le contentieux entre l'État argentin et ce que l'on nomme les fonds vautours. C'était en 2016. Alors concrètement, le pays avait pu recommencer des années après la crise à se financer sur les marchés. Est-ce que cet optimisme à l'époque était prématuré ? Est-ce que le pays n'était peut-être pas encore prêt, pas encore assez solide, Carlos Kenan ?
Aujourd'hui, c'est clair que le pays n'était pas assez solide. C'est-à-dire que le gouvernement du président Macri a effectivement, comme vous l'avez rappelé, mis en place, tout en arrivant, disons, fin 2015 aux affaires, et une stratégie, disons, que l'on appelle market friendly, disons, de montrer qu'on était en une reprise de la relation avec les marchés, et on avait réglé les contentieux, les différents, avec les fonds vautours, comme vous avez mentionné, en payant essentiellement ce que ces fonds vautours demandaient depuis plusieurs années. On avait également éliminé le régime de contrôle d'échange qui avait mis en place dans la dernière phase de son gouvernement, Cristina Kirchner. Et on avait adopté un certain nombre de mesures, par exemple la diminution très forte des taux sur les exportations pour favoriser les exportations des produits agricoles. Et tout ça, et le gouvernement du président Macri avait affiché comme étant une des mesures pour susciter une pluie d'investissements étrangers. Or, cette pluie d'investissements directs étrangers, c'est-à-dire d'investissements dans l'économie réelle pour développer de nouvelles entreprises, etc., ne s'est pas produite. Il y a eu quelques investissements ici et là, mais pour que cela se fasse en Argentine, il faut quand même, disons, plus d'éléments, puisque l'Argentine est un pays qui va d'un extrême à l'autre assez souvent, et dont la réputation qu'ont les investisseurs étrangers est un petit peu, comment dirais-je, nuancée. Donc, il n'y a pas eu cette pluie d'investissement. Ce qu'il y a eu, par contre, c'est une poussée de l'endettement extérieur, parce que l'Argentine a renoué avec les marchés financiers internationaux, ce qui a fait qu'elle a été un grand acteur des émissions de bons sur le marché international. Et petit à petit, s'est recréée cette dépendance à l'égard des financements extérieurs. Pour le moment, ce n'est pas une situation comme celle de 2001, parce qu'il n'y a pas un taux d'endettement du pays comme à l'époque. Et les entreprises ne sont pas aussi endettées que par le passé, mais c'était inquiétant. justement d'entrer dans cette nouvelle phase du cycle financier international avec une telle fragilité en termes de financement extérieur.
Alors remontons un petit peu plus loin dans le temps encore avec vous, Carlos Canan. Donc après la crise de 2003 à 2015, les Argentins ont mis au pouvoir des gouvernements de gauche qui avaient annoncé une rupture avec la logique néolibérale des années précédentes. Et donc en 2006, le gouvernement du président Néstor Kirchner avait remboursé par anticipation ses dettes au FMI pour ne plus dépendre de cette institution. La gauche des Kirchner, donc pendant toutes ces années, n'a peut-être pas su donner à l'Argentine suffisamment de stabilité économique, des erreurs structurelles qui ont été faites à cette époque.
Disons que dans la première phase du gouvernement Kirchner, il y a eu des politiques sociales réparatrices par rapport à cette crise de début des années 2000 qui avait été une crise dévastatrice au point de vue social, etc. L'Argentine était montée alors que ce n'était pas un pays avec une grande pauvreté, à des taux de pauvreté de plus de 40%. Et par la suite, ils ont appliqué des politiques un peu erratiques sur le plan de la gestion macroéconomique. Ils ont bénéficié bien évidemment du boom des prix des matières premières dont j'ai déjà parlé et associé à l'essor de la demande chinoise et notamment de soja et d'autres produits agricoles. Mais c'est vrai que, par exemple, une mauvaise régulation du secteur énergétique a généré un déficit de ce secteur-là au niveau des échanges extérieurs. Et la gestion macroéconomique, finalement, n'a pas été le point le plus réussi du gouvernement de Kirchner. Et je dirais même qu'ils n'ont pas non plus, alors qu'ils affichaient ça dans les discours, réussi à produire un changement de la matrice productive du pays pour être moins dépendant des exportations primaires. Donc, c'est un bilan assez nuancé, avec des éléments d'échec sur le plan économique, même si sur le plan social, effectivement, ils avaient eu cette politique, comme je disais, réparatrice, qui a expliqué le fait que, malgré tout, le gouvernement de Cristina Kirchner est sorti avec un taux de popularité relativement élevé et qu'elle garde aujourd'hui aussi un capital électoral entier lié à ces politiques sociales menées par le passé.
Donc effectivement un bilan assez contrasté. Alors aujourd'hui, ce qui est présenté comme une contrepartie du prêt du FMI, donc de plus de 56 milliards de dollars, c'est le plan d'austérité qui a été adopté par les députés argentins la semaine dernière. C'était la veille de la confirmation du prêt du FMI. Et donc dans un climat social très tendu dans le pays, avec des coupes claires donc annoncées dans les dépenses publiques, ce plan avait été annoncé en septembre par Mauricio Macri, qui avait dit, je le cite, « Nous ne pouvons plus continuer à vivre au-dessus de nos moyens ». Donc ce sont les mots du président qui appelait aussi à la mobilisation contre la corruption et qui déclarait que cette crise devait être la dernière. Est-ce que ce message politique porté par Macri, l'austérité, est-ce que c'est un message qui est accepté dans la société argentine, Carlos Canan ?
Moyennement. Disons qu'effectivement, sur le principe, c'est clair qu'on ne peut pas vivre de manière permanente au-dessus de ses moyens. Mais en même temps, effectivement, une partie de la population importante, disons, et les salariés, les secteurs du secteur informel, des emplois précaires, et ça a l'air d'une musique qu'ils ont déjà entendue, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, l'ajustement retombe sur ces secteurs-là, alors qu'il y a eu une très forte redistribution ou répartition de revenus favorables au secteur exportateur grâce à une dévaluation très très forte, n'est-ce pas? Le peso était à peu près à 20 pesos par dollar en début d'année, maintenant c'est à 40, ça veut dire que les secteurs exportateurs ont beaucoup gagné. Alors maintenant, effectivement, lorsque l'on fait un accord avec le Fonds monétaire international, il va demander justement dans le cadre de la conditionnalité des contreparties, et ces mesures d'austérité, disons, renforcées avec les nouvelles négociations, parce qu'il y a eu deux moments dans la négociation, et avec le prêt actuel de plus de 56 milliards de dollars, dont le premier décaissement se produit cette semaine, eh bien, implique l'objectif de trouver un équilibre budgétaire primaire pour 2019, l'année prochaine, donc des diminutions des dépenses. Il y a une ponction également sur le pouvoir d'achat de la population du fait que l'inflation va être proche de 40% et que les augmentations des salaires négociées par les syndicats sont en dessous de ça. Ce qui fait que, effectivement, je ne sais pas si c'est la dernière crise, mais ça serait une crise sévère, n'est-ce pas, pour les secteurs dépendants du travail et les secteurs de classe moyenne et les plus vulnérables. Et la question est de savoir justement quelles implications ça pourra avoir sur les élections qui se profilent à l'horizon en 2019.
C'est la question que je voulais vous poser. Certains députés de gauche parlent d'un budget de la faim, c'est le mot qui est employé, donc cette référence à la hausse de la pauvreté. Donc politiquement, qu'est-ce que la gauche pourrait faire si elle gagnait ces élections présidentielles, Carlos Canan ?
Bon, mais c'est peut-être trop tôt pour parler de ce que la gauche pourrait faire ou si la gauche pourrait gagner, parce qu'en réalité, en face du président Macri, est actuellement aux commandes, disons, il y a un large spectre, n'est-ce pas, d'opposition, où le secteur majoritaire, c'est le péronisme. Et ce péronisme-là a essentiellement deux grandes composantes, pour simplifier. Une composante que l'on pourrait assimiler à une composante de gauche, si on accepte que c'est le cas, disons, pour le kirchnerisme, disons, et la figure de Cristina Kirchner est fondamentale là, qui a en effet à peu près un 30%, n'est-ce pas, des noyaux durs, des partisans, des gens qui voteraient pour elle, mais qui a aussi un taux de rejet important du fait des affaires de corruption et qui ont été mises en lumière, disons, concernant différents ministres, même son entourage proche. Et puis, d'autre part, un secteur du péronisme plus modéré et qui, pour partie, a favorisé ses accords dans la Chambre des députés pour approuver le budget, et composé par des gouverneurs de provinces importantes, et qui essaye de trouver une voie médiane entre le kirchnerisme et le gouvernement considéré de droite ou de centre-droite de président Macri. Donc, il faut voir quel mouvement se développe pour ce qui est de ces secteurs d'opposition, s'ils arrivent à trouver un accord, ou si en fait il y a à peu près trois tiers, disons, qui se présentent aux élections de l'année prochaine, sachant que, d'une part, le président Macri a vu sa popularité diminuer fortement, mais il garde lui aussi une base électorale d'environ un tiers qui est importante, et que rien n'est clair, disons, pour ce qui est, disons, de la construction d'une alternative qui pourrait apparaître comme permettant de passer cette période d'ajustement et de difficultés. Parce que, quel que soit le gouvernement qui va assumer en octobre, fin de l'année prochaine, les difficultés structurelles de l'Argentine seront toujours là. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est vrai que ça ouvre un espace, disons, de possibilités de gagner pour l'opposition, un espace que l'on ne voyait pas du tout lorsque les forces que soutient le président Macri ont gagné l'élection de mi-mandat législative d'octobre 2017. Donc la situation a beaucoup changé, mais pas au point de penser que le sort du président Macri est complètement condamné, disons, et qu'il y aura une victoire de l'opposition l'année prochaine.
Eh bien, merci beaucoup, Carlos Kenan, pour ces éclaircissements sur la situation de l'Argentine. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Université Paris 3 et vice-président de l'Institut des Amériques.